On va commencer notre 36e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va continuer la réforme dans les pays de langue française. On continue encore avec Jean Calvin, 1509 à 1564, qui a vécu. On va surtout parler de son deuxième séjour à Genève. Alors, dans nos deux dernières leçons, on avait vu comment Dieu appela Jean Calvin au ministère. On avait vu un petit peu ses années de jeunesse et sa formation, le rôle aussi déterminant de Farel dans sa vie et les événements de son premier séjour à Genève. Le second séjour de Calvin à Genève dura 23 ans, soit jusqu'au jour de sa mort. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter très longuement. Bien des traits rappellent le premier. Calvin développa encore les principes affirmés dans l'institution chrétienne en profitant de ses expériences qui lui dictèrent quelques modérations sans que pour cela il transigeât sur ce qu'il envisageait comme essentiel, c'est-à-dire l'absolue soumission de la population entière à la doctrine évangélique enseignée dans l'Écriture sainte sous peine pour les récalcitrants des châtiments les plus sévères. L'Église et l'État demeuraient étroitement unis, avec leurs rôles respectifs mieux délimités que par le passé. Le cas échéant, ils se prêtaient mutuel appui. Calvin mit un soin particulier à proclamer très haut et à maintenir intégralement l'autorité de la parole de Dieu, guide de toute la vie quotidienne et base unique de toute prédication. Celle-ci devait toujours reposer sur un passage biblique dont les pasteurs n'avaient à s'écarter sous aucun prétexte pour faire des digressions morales ou autres. Calvin leur recommandait d'être bref et incisif, d'éviter toutes les longueurs qui risqueraient de fatiguer les auditeurs. « Il y a une chose dont je veux parler », écrivait-il un jour à Farel. « On a dit que la longueur des sermons est un sujet de plainte. » Tu m'as dit toi-même plus d'une fois que tu voulais y veiller. Ne l'oublie pas, je t'en supplie. Et puisque ce n'est pas pour notre propre édification que le Seigneur nous appelle à monter en chair, mais pour celle du peuple, il est de ton devoir de te modérer de telle sorte que la parole de Dieu n'ait pas à pâtir de ce que tu auras lassé les gens. Même observation sur les prières, bien que Farel, au dire de tous ses contemporains, pria admirablement. Il vaut mieux prier longuement en particulier et brièvement dans l'assemblée. Si tu attends de tous une ardeur égale à la tienne, tu te trompes, disait-il. Calvin donnait aussi une grande importance au chant. Certes, disait-il, les oraisons des fidèles sont froides, si bien que cela doit nous tourner à grande honte et confusion. Les psaumes nous pourront inciter à élever nos cœurs à Dieu et à nous émouvoir à une ardeur tant de l'invoquer que d'exalter par louange la gloire de son nom. En attendant qu'on eût des cantiques en nombre suffisant, on chantait les psaumes traduits par Clément Marot et par Théodore de Bèze. Calvin avait un tel souci de ne jamais s'écarter du texte biblique qu'il fit imprimer au bas de chaque page, la traduction exacte en prose du texte hébreu, ne voulant pas qu'on puisse attribuer au psalmiste ce qui pouvait être dû aux exigences de la versification. Dans tout ce travail d'organisation, Calvin trouva d'actifs collaborateurs parmi ceux qui avaient contribué à son retour à Genève. On est ému et reconnaissant à Dieu de ce qu'il suscita en faveur de son œuvre, une pareille pléiade d'hommes, entièrement dévoués à la cause de l'Évangile. Ce noyau se maintint solide au milieu des orages qui surgirent. Le Seigneur ne resta donc pas sans témoin dans cette ville de Genève, souvent si rebelle à la vérité et si encline à méconnaître les bénédictions dont elle avait été l'objet. Il est bon de préciser dans quelle mesure Calvin s'occupa de l'administration de la ville. On se fait parfois des opinions exagérées à ce sujet. Son autorité resta essentiellement morale et ecclésiastique, mais on avait l'habitude de le consulter sur les matières les plus diverses, sans pour cela suivre nécessairement son avis. On s'adressait à lui quand il s'agissait de conclure un traité avec Berne, comme aussi sur l'introduction d'un nouveau moyen de chauffage. On lui confiait volontiers la rédaction d'une note diplomatique. On le chargeait même de négociations avec les États voisins. Il faut dire que la très haute culture de Calvin le désignait tout naturellement à des missions délicates. Mais on aurait tort de parler d'une tyrannie qu'il aurait exercée sur la cité. Souvent, on ne s'arrangeait pas à ses conseils. Ses ouvrages étaient soumis à la censure, comme tout ce qui s'imprimait à Genève. On lui imposait certaines corrections, et il devait les accepter. En revanche, dans le domaine des mœurs, Calvin exerça une autorité incontestable, qui donna à la ville une physionomie tout à fait à part. Plus de fêtes mondaines, de spectacles, de danses, de débauches. Le luxe est banni, la simplicité règne dans les vêtements et à table. Les crimes, les délits qui abondaient se font rares. Tout respire l'ordre, l'honnêteté, la pureté, la décence, la piété. Mais de nouveau, Satan mit tout son œuvre pour entraver les efforts des défenseurs de la parole de Dieu. Instruits par les fautes qu'ils avaient commises, les libertins crurent de bonne politique de se tenir sur une réserve prudente, tout en suivant de près les actes du réformateur. Leur perspicacité, sans cesse en éveil, leur permit de tirer parti des fautes commises par Calvin dans l'application trop rigide et sans appel de son système. Ils surexcitaient la population contre ce qu'ils taxaient d'atteinte portée aux anciennes libertés de Genève, mot juste en apparence, si la liberté consiste à faire tout ce qu'on veut, sans tenir compte de son prochain, ni surtout des enseignements de Dieu, mais foncièrement inique quand on considère sous son vrai jour l'œuvre de génération morale que poursuivait Calvin, en montrant aux citoyens les sentiers du Seigneur et surtout en leur faisant voir où trouver le salut de leurs âmes. Ce furent de nouveau des vexations sans nombre, imaginées par les libertins pour entraver l'œuvre de Dieu. Tapage, orgie nocturne, débauche, rien n'y manquait. Un jour, Calvin dirigeait une étude biblique. Devant lui se groupaient des centaines d'hommes, parmi eux, nombre de futurs prédicateurs et de futurs martyrs. Soudain, on entendit au dehors un grand vacarme, des éclats de rire immodérés, des cris, des propos malsonnants qui forcèrent Calvin à s'interrompre dans son exposé. C'était une vingtaine de libertins qui donnaient par haine contre le réformateur un échantillon de leurs allures et de ce qu'ils appelaient la liberté, contre de pareils forcenés qui, à leur honte, assistaient encore au service religieux. Calvin n'avait qu'une arme à employer, celle de l'excommunication. Il en usa, et il en résulta un orage tel qu'il s'attendit à une nouvelle sentence d'exil. Il l'annonça dans une de ses prédications où il avait pris pour sujet les adieux de Paul aux Éphésiens, dans Actes chapitre 20, versets 17 à 38. Et tout l'auditoire fondit en larmes quand il termina par les paroles mêmes de l'apôtre, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Le Seigneur intervint en faveur de son serviteur. Il inclina les cœurs des magistrats à une plus juste compréhension des événements. Et Calvin sortit, grandi de cette dure épreuve. La question des réfugiés servit de nouveau prétexte à la haine des libertins. Genève considérait comme un devoir et un honneur d'accueillir avec une généreuse hospitalité les nombreux fugitifs de France pour cause de religion qui venaient lui demander assistance. À beaucoup, elle accordait le droit de bourgeoisie. Or, les libertins s'indignaient de les voir se multiplier dans la ville. Ils ne comprenaient rien à ce pieux héroïsme qui leur avait fait quitter châteaux et terres pour devenir simples sujets d'une toute petite république et se soumettre à ces ordonnances rigides dont eux, bourgeois, ne voulaient pas. Quant à ceux qui gagnaient leur vie du travail de leurs mains, on ameutait contre eux les artisans en leur faisant redouter une concurrence ruineuse, reproche des plus immérités, car partout où ils s'établirent, ces réfugiés apportaient avec l'exemple d'un travail consciencieux et persévérant des procédés nouveaux. Le Seigneur permit qu'ils fussent ainsi en riche bénédiction matérielle à leur entourage. C'est lui encore qui réduisit à néant les odieuses machinations des libertins contre ces nobles témoins de la vérité. L'émeute ourdie contre eux avorta piteusement. Les révoltés eurent beau crier et faire crier que les réfugiés allaient saccager la ville. Les citoyens ne s'émurent pas, ou du moins ne s'émurent que pour aller grossir les rangs des amis de l'ordre. Les libertins semblaient avoir pris à tâche de ne mériter aucune indulgence. Plusieurs d'entre eux subirent la peine de mort, d'autres avaient fui, le reste fut exilé. Au plus fort de ce conflit, éclata l'affaire de Michel Servet. Espagnol d'origine, il avait, dans plusieurs ouvrages, énoncé des théories fort désordonnées, matérialistes et panthéistes, et contestait la doctrine de la Trinité. En politique, il s'affichait comme un révolutionnaire. Établi à Vienne, en Dauphiné, il n'avait échappé que par une fuite précipitée à une sentence de mort par le feu, formulée par le tribunal catholique. Plus tard, on le retrouve à Genève. Calvin le signala aussitôt à la justice comme un individu dangereux. Il s'ensuivit un long procès, au cours duquel on donna à l'accusé toutes les possibilités de se défendre et aussi de se rétracter. Il les repoussa, affichant une intransigeance hautaine et s'en prenant surtout à Calvin, qu'il accabla d'outrage. « Misérable, s'écria-t-il, tu ne sais pas ce que tu dis, tu persistes à condamner ce que tu n'entends point. Penses-tu étourdir les juges par ton aboi? Tu as l'entendement confus, en sorte que tu ne peux entendre la vérité. Tu en as menti, tu en as menti, tu en as menti, calomniateur ignorant. » Un tel entêtement entraînait une condamnation, et d'après la jurisprudence contemporaine, c'était la mort. Mais avant de se prononcer, les juges, sentant la gravité des circonstances, prirent l'avis des autorités de Bâle, Berne, Schaffhouse et Zurich. Leur réponse, unanime, se résume dans celle de Zurich. Vous ne laisserez venir en avant la méchante fausse intention de votre dit prisonnier, laquelle est totalement contraire à la religion chrétienne et donne de grands scandales. Le Conseil de Genève se rangea à cette opinion et Servet fut brûlé vif. On a violemment exploité cette affaire contre Calvin. Il s'est expliqué lui-même en ces termes. Depuis que Servet fut convaincu de ses hérésies, je n'ai fait nulle instance pour le faire condamner à mort. Et de ce que je dis, non seulement toutes gens de bien me seront témoins, mais aussi je défie tous les malins qu'ainsi ne soit. Une fois la sentence prononcée, il insista vivement, mais sans succès, pour que le coupable fût décapité. On déplore néanmoins que, versé comme il l'était dans les Écritures, il n'ait pas mis à profit cette exhortation du Seigneur. Soyez miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux, et ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Luc 6, versets 36 et 37. Une fois de plus, il faut faire ici la part de l'esprit du siècle. En présence des bûchers, qui, en France surtout, s'allumaient de tous côtés, on comprend que la notion de tolérance eut peine à se frayer un chemin. Tout en réprouvant ce procédé, soyons reconnaissants de ce que nous en apprenons. Ayons en horreur le mal, les fausses doctrines, sous quelque forme qu'elles se présentent, et prenons pour règle de conduite ces mots de la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher, comme lui a marché. » Ces conflits incessants, le travail énorme qui lui incombait, ne contribuèrent pas peu à aggraver l'état de santé de Calvin, qui avait toujours été frêle. Après avoir eu la douleur de voir mourir en bas âge ses trois enfants, il eut celle plus poignante encore de perdre sa femme au bout de 9 ans à peine de mariage. « J'ai perdu, écrit-il à Viret, l'excellente compagne de ma vie, celle qui ne m'eut jamais quitté, ni dans l'exil, ni dans la misère, ni dans la mort. Elle m'était une aide précieuse et s'occupant jamais d'elle-même. Je comprime ma douleur tant que je puis. Mes amis font leur devoir, mais eux et moi, nous gagnons peu de choses. Tu connais la tendresse de mon cœur, pour ne pas dire sa faiblesse. » Quoique encore jeune, il n'avait que 39 ans, Calvin ne contracta pas de nouvelle union et se consacra avec d'autant plus d'ardeur aux tâches multiples qui lui incombaient. Par les nombreux réfugiés qui affluaient à Genève, par les relations qu'il avait nouées au cours de ses voyages en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie, il se tenait au courant de tout ce qui concernait la réforme dans l'Europe entière. Cette préoccupation à elle seule l'entraînait à une correspondance prodigieuse dans laquelle il faut comprendre les lettres innombrables, empreintes d'une profonde sympathie qu'il adressait à ceux qui souffraient pour l'Évangile. Calvin a beaucoup publié. À côté de l'institution chrétienne, qu'il remania sa vie durant en la développant à chaque nouvelle édition, et de nombreux écrits de controverse, il convient de citer ses commentaires sur presque tous les livres de la Bible, pleins de simplicité, de sagesse, de sens pratique. « Je sais, disait-il lui-même, combien plusieurs trouveraient mieux à leur goût qu'on fît un amas de beaucoup de matière, d'autant que cela a grand lustre et acquiert bruit à ceux qui le font. Mais je n'ai rien en plus grande recommandation que de regarder à l'édification de l'Église. Dieu, qui m'a donné le vouloir, fasse par sa grâce que l'issue en soit telle. » Son étude sur le livre de Job, surtout, eut de son temps une grande réputation. Coligny se la faisait lire et relire. Pour ces hommes vivant parmi tant de troubles, Job était comme la personnification de ces tristesses, craintes, douleurs, doutes dont le cœur humain est assailli. Un de ses derniers soucis, une grande joie aussi, fut la fondation de l'Académie de Genève. Alors Calvin vécut toujours dans une austère simplicité, soucieux de n'imposer à personne la moindre dépense superflue en ce qu'il touchait. C'est le trait que le pape Pie IV se plut à reconnaître en lui lorsqu'il apprit sa mort. « Ce qui a fait la force de cet hérétique, disait-il, c'est que l'argent n'a jamais été rien pour lui. » Le Conseil de Genève a peine à lui faire accepter de temps à autre un cadeau de vin ou de bois. Même dans les bonnes années, c'est tout juste s'il noue les deux bouts. Vu cette grande charge de passant, écrit-il, mais il ajoute, je ne dis point cela pour me plaindre, Dieu est bon envers moi, puisque j'ai ce qui suffit à mes désirs. Ces mots s'aggravaient. Douleur à la tête et aux jambes, maux d'estomac, crachement de sang, la respiration pénible, la goutte et la pierre, rien ne manquait à ce long supplice, et au début de 1564, on se rendit compte qu'une issue fatale n'était pas douteuse. En février, tandis qu'il prêchait une toux violente lui coupa la parole et sa bouche se remplit de sang. Les médecins lui interdirent tout service public, mais il continua à travailler dans son cabinet malgré les instances de ses amis. Sa réplique ordinaire était qu'il ne faisait comme rien, que nous ne souffrissions que Dieu le trouva toujours vaillant et travaillant son œuvre comme il pourrait jusqu'au dernier soupir. Sentant la fin s'approcher, il désira parler encore une fois aux magistrats et leur demanda audience. Le conseil décida de se transporter encore dans l'humble maison de la rue des Chanoines, où l'on vit arriver, dans toute la pompe des cérémonies publiques, les 25 seigneurs de la cité. Leurs registres ont conservé le résumé des paroles de Calvin. Il les remercia de ce qu'il leur avait plu, de lui faire plus d'honneur qu'il ne lui appartenait, les priant de l'excuser d'avoir fait si peu au prix de ce qu'il devait être en public en particulier, et estimant que mes seigneurs l'ont supporté en ses affections trop véhémentes auxquelles il se déplaît et dans ses vices comme Dieu a fait de son côté. Puis il leur tendit la main. « Je ne sais, dit Théodore de Bèze, s'il eût pu advenir un plus triste spectacle à ses seigneurs qui le tenaient tous et à bon droit. Quant à sa charge comme la bouche du Seigneur et quant à l'affection comme leur propre père, car il en avait connu et dressé une partie dès leur jeunesse. Le lendemain, il voulut voir les pasteurs. Il leur tint un discours dont la substance était qu'ils ne perdissent pas courage, que Dieu maintiendrait la ville et l'Église, bien qu'elles fussent menacées de plusieurs endroits, que chacun se fortifiât en sa vocation, que ce serait pour nous rendre bien coupables devant Dieu si les choses étant avancées jusqu'ici venaient après en désordre par notre négligence. Il bailla la main à tous, l'un après l'autre, ce qui fut avec une telle angoisse et amertume de cœur d'un chacun que je ne saurais même me les ramentevoir. Autrement dit, ça veut dire rappeler, c'est un mot français de l'époque, sans une extrême tristesse. Farel, le plus ancien des amis de Calvin, manquait auprès du lit de son lit de mort. Il annonça son intention de venir le voir et persista à faire le voyage, bien que Calvin lui-même cherchât à l'en dissuader. « Bien te soit, très bon et très cher frère, lui écrivit-il, et puisqu'il plaît à Dieu, tu demeures après moi. Souviens-toi de notre constante union, dont le fruit nous attend au ciel, comme elle a été profitable à l'Église de Dieu. Je ne veux pas que tu te fatigues pour moi. Je respire à grand-peine et j'attends d'heure en heure que le souffle me manque. Mais c'est assez que je vive et meure en Christ, qui est un gain pour les siens en la vie et la mort. Encore une fois, adieu, toi et tous les frères, tes collègues. » Malgré ses 80 ans, Farel fit à pied le trajet de Neuchâtel à Genève, où il ne passa qu'une journée. Le lendemain, il prêcha, puis il prit le chemin du retour. Les derniers jours de Calvin ne furent, nous dit son ami, qu'une prière continuelle. Souvent, il répétait ces mots du psaume 39, verset 9. « Je suis resté muet, car c'est toi qui l'as fait. » Ou ceux-ci, d'Ésaïe 38, 14, « Je gémissais comme une colombe. » Peu à peu, ses prières et consolations assidues furent plutôt soupirs que paroles intelligibles, mais accompagnées d'un tel œil que le seul regard témoignait de quelle foi et espérance il était muni. Le 27 mai, il sembla qu'il parlait plus fort et plus à son aise, mais c'était un dernier effort de la nature. Le soir, vers 8 heures, il expira, et voilà comme en un seul instant, le soleil se coucha et la plus grande lumière qui fut dans ce monde pour l'Église du Seigneur fut retirée auprès de lui. Les funérailles de Calvin se firent avec la plus grande simplicité. Il avait enjoint que tout se fît à la façon accoutumée, c'est-à-dire qu'aucun monument ne s'éleva sur aucune tombe, quelque illustre que fût le défunt. La terre seule dont couvrit le cercueil de Calvin, et il n'y eut d'autre épitaphe officielle que cette demi-ligne écrite à côté de son nom sur le registre du consistoire. Allez à Dieu le samedi 27. Quelques observations comme deuxième point sur la vie de Calvin en général. On se représente volontiers Calvin comme le législateur de la Réforme. Ce trait ressort des portraits qu'on a de lui et qui le montre souvent avec l'index de la main droite levé, geste qui lui était familier et bien connu chez ceux qui cherchent à tout prix à imposer à leur interlocuteur. Son visage émacié, taillé en lame de couteau, son regard aigu et pénétrant, font encore ressortir une intelligence portée à dominer au nom de la logique implacable dont elle est animée. Calvin ne convoitait pourtant pas l'autorité personnelle. Son tempérament timide, réservé, le portait à s'effacer lui-même. Il se fut volontiers contenté de se tenir dans la coulisse, tandis que les autres se présentaient au combat. Non pas qu'il y eût chez lui le moindre soupçon de lâcheté. La suite des événements prouva abondamment le contraire, mais il lui manquait le caractère d'un guerrier d'avant-garde. Ce n'est pas pour lui-même qu'il luttait, mais bien pour un principe essentiel qui inspira toute sa doctrine, celui de la souveraineté absolue de Dieu. Comme on l'a remarqué, pour Luther, la demande capitale de la prière enseignée par Jésus, ses disciples étaient celle-ci. Remets-nous nos péchés. Pour Calvin, c'est que ton nom soit sanctifié. Cette toute-puissance de Dieu se manifeste dans l'œuvre de la création comme dans celle de la rédemption. De là à proclamer la rédemption, la prédestination, il n'y avait qu'un pas. Selon Calvin, qui suivait ici plusieurs pères de l'Église, Dieu aurait décidé par avance, au nom de sa souveraineté, lesquels d'entre les hommes seront sauvés, tandis que les autres ne le seront pas, ne pourront pas l'être. Ainsi, le sort de chacun aurait été fixé dès l'éternité. Calvin déclare que la prédestination est un mystère que l'homme ne saurait sonder. Ce sont, dit-il, choses que Dieu a voulu être cachées et dont il s'est retenu la connaissance. C'est la hautesse de sa sapience, laquelle il a voulu plutôt adorer de nous que comprise et assujettie au sens humain. Et il ajoute, nous disons que ce conseil, quant aux élus, est fondé en sa miséricorde, sans aucun égard de dignité humaine. Au contraire, que l'entrée de la vie est fort close à tous ceux qu'il veut livrer en damnation, et que cela se fait par son jugement occulte et incompréhensible, combien qu'il soit juste et équitable. À cause de sa souveraineté pleine et entière, il ne saurait y avoir aucun intermédiaire entre Dieu et l'homme, sinon l'homme Christ Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Du coup, Calvin abolit le rôle que l'Église catholique s'est arrogé à cet égard. Ainsi, il est sacrilège quiconque prétend s'interposer, Église ou prêtre. À Dieu seul revient la gloire d'attirer l'âme, même la plus égarée, même la plus faible. Le nouveau-né n'a nul besoin pour échapper à la perdition du soutien de l'Église. L'homme dépend donc entièrement de Dieu et nullement des autres hommes. Il sera leur serviteur pour obéir à l'enseignement du Seigneur. Mais ce ne sera assujetti à aucun joug humain. Dans ce sens, Vinet a pu écrire « Le christianisme est dans le monde l'immortelle semence de la liberté ». Comment donc expliquer le régime extrêmement rigoureux imposé par Calvin à Genève? Il n'avait pas à créer ici de toutes pièces un système jusque-là inconnu, mais devait extirper un mal invétéré, des habitudes profondément ancrées, réformer les mœurs, tout cela pour la gloire de Dieu. Non pas que le mal fût plus grave à Genève qu'ailleurs, partout le cœur de l'homme est désespérément mauvais, et Calvin aurait agi de même partout où le Seigneur l'eût placé. Nombreuses, certainement, furent les fautes commises par Calvin, dues les unes à sa tournure d'esprit, les autres aux circonstances dans lesquelles il se débattait. Malgré sa connaissance approfondie de la Bible, trop souvent, il ne la suivait pas au pied de la lettre parce qu'il laissait intervenir l'élément humain. Aux grands mots, les grands remèdes, ce dicton est à sa place lorsqu'on veut chercher à comprendre, sans l'excuser, l'attitude prise par Calvin. Et quand on considère qu'il était de nature, son goût pour l'étude, son aversion pour la lutte, qu'explique entre autres sa santé débile, les cruelles souffrances physiques qu'il endurait, on reste émerveillé de l'œuvre du Seigneur chez son serviteur. Comme on le lit dans Hébreux, chapitre 11, verset 34, « De faible qu'il était, il fut rendu vigoureux, il devint fort dans la bataille. » Intrépide devant le danger, doué des plus hautes qualités intellectuelles, d'une piété très vivante, ce fut un des témoins de la vérité les plus remarquables de son temps et de tous les temps. Il réalisa tout particulièrement cette promesse faite à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Au milieu de la veulerie générale de nos jours, c'est un utile et salutaire enseignement que de considérer la figure de Jean Calvin, qui courait avec patience la course qui était devant lui, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. J'ai mis trois applications. La première, louons le Seigneur d'avoir donné à son Église des serviteurs zélés, courageux et fidèles, de la trempe du réformateur Jean Calvin. Son influence se fait encore sentir après 500 ans. Deuxièmement, prions pour de la sagesse pour savoir comment agir quand se présentent des circonstances difficiles dans nos vies. Prions pour que nous soyons guidés par le Saint-Esprit et par les Saintes Écritures en tout temps. Troisièmement, implorons la miséricorde de Dieu pour qu'il nous donne de porter du fruit en abondance et que notre ministère personnel ait une influence salutaire sur notre milieu dans le siècle où nous vivons et même après notre décès. Que notre grand Dieu soit béni, loué et exalté à tout jamais. Amen.